Bonjour Pierre.
Bonjour Victor.
Alors, donc Pierre, tu es militant au nouveau parti anticapitaliste, représenté donc à l'élection présidentielle par Philippe Poutou. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter, nous dire quel âge tu as, ce que tu fais dans la vie ?
Alors du coup, moi c'est Pierre, je suis étudiant à la fac de Rennes 2, j'ai 19 ans et je milite au nouveau parti anticapitaliste du coup depuis mars dernier, donc mars 2021.
Donc ça fait un an, tout pile. Pour commencer donc, c'est quoi tes premiers souvenirs que tu as en politique, les premiers contacts que tu as eu avec la politique ?
Alors, parcours un peu particulier, hein, puisque bon, en fait, je pense qu'on a tous un peu mille débuts mi-temps, tu vois. C'est-à-dire, moi, je m'intéressais à la politique en 2017 quand il y avait présidentiel, mais je m'y suis intéressé aussi quand il y avait marche climat, etc., etc. Et en fait, il y a eu mille premières manifs pour moi, quoi. Mais en fait, celle où je me sentais le plus engagé, où j'ai l'impression que c'était un peu la mienne et que j'avais l'impression d'être un peu dedans, c'était les Gilets jaunes. Donc, les Gilets jaunes, j'étais au lycée. Et un truc qui m'avait remarqué, c'était mon chauffeur de bus pour m'emmener au lycée. Il klaxonnait en soutien et il faisait « Ouais !» en croisant les jeunes. Et là, je me suis dit, en fait, il y a quelque chose qui se passe, quoi. Il y avait du lien. Et c'est là-dessus que je me suis dit, en fait, la politique, en fait, ça peut être autre chose que la télé, quoi. Bon, après, j'avais déjà fait quelques marches climat. Mais c'est vrai que le fait de... En fait, la rue, ça pouvait être un espace de politique. Et en fait, n'importe qui, même un chauffeur de bus, pouvait être un homme politique, mais pas dans le sens politicien. Ça, c'était mon premier contact, je dirais.
Et justement, tu parlais de télé. Est-ce que cette télé t'a permis peut-être enfant d'être confronté à une première fois à la politique, ou peut-être dans ton cercle familial ? Est-ce que plus jeune déjà, la politique de la télé, comme tu disais, t'as pu y être confronté ?
Alors un peu, mais bon, c'est vrai que moi, je suis pas trop partie de ceux qui regardaient beaucoup la télé. En fait, il y a vraiment que... Tu sais, c'est un peu comme les matchs de foot, tu vois. Le foot, tout le monde s'en fiche, sauf quand c'est la coupe. Et la politique, tout le monde s'en fout, sauf quand c'est les présidentielles. Et c'était pareil chez moi aussi, quoi. Donc du coup, il a vraiment fallu que ça se secoue un peu dans toute la société. Et en fait, quand ça se secoue, c'est-à-dire en dehors de période électorale et que t'as un peu de lutte, en fait, on entend beaucoup plus parler sur les réseaux sociaux, j'ai l'impression. C'est-à-dire, en fait, quand, par exemple... Quand il y a eu Justice et Vérité, quand il y a eu, je ne sais pas si je rappelle, Où est Steve à Nantes.
Donc Justice et Vérité, c'est par rapport à Adama Traoré, par la mort.
Adama Traoré. Ouais. Mais moi, ouais, par exemple, je vais plutôt me centrer sur Steve. Tu vois, Steve à Nantes, enfin, la première fois où, avec mes parents, on a parlé de ce que c'était que la police, et que du coup, c'était un discours politique, hein, tu vois, soit pour ou contre, c'est un discours politique sur la police. Ça, ce n'est pas venu vraiment... de la télévision, enfin même si c'est évidemment passé à la télévision cette histoire, ça venait de trucs qu'on avait vu, que c'était sur Facebook, etc. L'affaire Où est Steve, quoi. C'est parce que c'était un hashtag, etc., etc. Et donc là, c'est un peu la première fois que c'est venu dans le cercle familial, quoi, ce truc de discuter politique. C'est venu aussi de mobilisations qui ont dû se voir ailleurs qu'à la télé, quoi.
Donc Steve, pour rappeler, donc c'est l'affaire Steve Maya Canisso, donc c'est un jeune qui est mort du coup lors d'une fête de la musique à c'est Nantes. Ça. Et était contesté.
En gros, ce que des militants soulignaient, c'est que il est tombé à l'eau après une charge de police qui devait en gros calmer une fête, quoi. Ouais. Mais le truc, c'est que la police niait complètement que des gens étaient tombés à l'eau, ne serait-ce que tombés à l'eau. Donc le fait qu'il ait été retrouvé noyé, je sais plus s'il a été retrouvé noyé ou s'il a juste pas été retrouvé. Je crois qu'il a pas été retrouvé.
Pour bien rappeler aux auditeurs, aux auditrices que c'était que cette affaire. Donc avant de parler du NPA plus précisément et de ton engagement, il y a une certaine défiance quand même constatée d'une partie de la population depuis plusieurs années quant aux institutions politiques et notamment quant aux partis. Pourquoi avoir choisi de s'engager dans l'institution particulière qu'est un parti politique ? Pourquoi un parti politique et pas une association ou un syndicat ou, voilà.
Et bien évidemment, la plupart des gens qui sont au NPA sont aussi engagés dans des organisations syndicales. Mais c'est vrai qu'en fait, alors nous on se revendique évidemment de la rue et de la lutte, et c'est vrai que bon, en fait on voit beaucoup de manifestations, on voit beaucoup moins d'organisations partisanes, quoi. Il y a plein de gens qui vont en manif, qui se revendiquent pas du tout d'un parti. Et c'est vrai qu'en fait, moi ce choix, il s'est directement posé, parce que quand je suis venu en manif, je me dis, mais qui est-ce qui organise tout ça ? Et en fait, il n'y a pas forcément des gens qui organisent les manifestations, mais on a envie qu'une organisation existe. Et c'est vrai que ce truc de se dire, en fait, avoir envie de regarder quelle est l'histoire de nos luttes, parce que ça m'a toujours intéressé, aussi pouvoir se projeter dans le futur, où est-ce qu'on va avec le fait d'aller dans la rue, pourquoi est-ce qu'on se bat, etc. Ça, pour moi, ça nécessitait quand même une organisation et qu'il ne soit pas simplement local, quoi. C'est vrai que, quand même, la qualité du NPA, c'est d'exister nationalement en France, voire même internationalement. Hein. C'est, le NPA, il faut savoir que ça fait partie d'une internationale de partis politiques d'extrême gauche, qui est en fait celle qui est le. C'est l'international où il y a le plus de partis. Donc je crois que c'est une quarantaine de pays. Et donc du coup, ce truc de directement essayer de réfléchir à la question, pas seulement localement, parce qu'en fait, moi je pense que les luttes, et notamment les luttes ouvrières, hein, les grèves, les manifestations, etc., ça doit s'organiser à de grandes échelles. Pour pouvoir gagner, il va falloir aussi une grande unité. Et c'est vrai que en fait, la forme parti politique, alors moi je pense qu'elle a vocation à bouger, à secouer, à pas rester sur de vieilles pratiques. Mais le fait de se dire, ok, on a un matos qu'on se partage, on a des coordinations, on discute entre villes. C'est vrai que moi, quand j'ai découvert le NPA, premier réflexe que j'ai eu, c'était même pas forcément de prendre ma carte, mais c'est d'essayer d'en découvrir des membres d'un peu toutes les villes, quoi. D'essayer de choper des numéros de téléphone, de leur demander c'était quoi leur contexte particulier, comment est-ce qu'ils militaient, qu'est-ce qu'ils essayaient de faire en fait dans leur ville par rapport à leur contexte. Et ça, en fait, le seul point commun qu'il y avait entre tous ces gens, c'était de se revendiquer du NPA, quoi. Et c'est vrai que ça aurait pas été possible s'ils se revendiquaient de rien du tout.
Donc tu vois plus en fait ce qui t'intéresse dans un parti, c'est plus l'aspect facilitateur de coordination, de manifestation, de mobilisation en fait, c'est ça ?
Alors il y a de ça, il y a le fait de coordonner des luttes. Après, en fait, ce qui est venu peut-être en fait après que je sois rentré au NPA et qui m'a du coup me semble une évidence, mais qui n'était pas quand je suis rentré, c'est la question de la formation politique, quoi. C'est le fait de en fait d'avoir des billes, de se passer des bouquins. En fait, rien n'est évident dans le fait de lire du Lénine, hein, ou du Trotsky, que je bouquine et que j'invite tout le monde à lire, et à lire en groupe. En fait, avoir une formation qui n'est pas juste, en fait, les bibliothèques, c'est pas forcément des trucs qui sont en fait dans une chambre, quoi. Une bibliothèque, ça peut être un truc qu'on partage. Il peut y avoir des week-ends de formation, des journées de lecture en groupe. Et c'est vrai que ça, c'est un truc qui est vraiment très lié à la forme d'un parti politique. Ce fait de se transmettre des analyses de trucs passés, de pouvoir en fait comprendre bon bah voilà, il s'est passé des choses à telle période de l'histoire, il s'est passé des choses lors de la guerre d'Algérie, il y a eu des réflexions qui ont été eues, il y a des gens qui avaient tort, des gens qui avaient raison, peut-être même plus de gens qui avaient tort, mais pourquoi? Ça, c'est quand même un truc qui doit se discuter collectivement et pas juste lire en fait à la ligne la ligne d'un bouquin. Et donc ça, c'est un peu pour moi les deux aspects super importants d'un parti politique qui pour moi le différencie de juste rien ou juste des assos, c'est en fait une formation politique qui peut être discutée, etc., mais quand même, ça, on te l'apporte. Hein. Et puis là, ouais, coordonner des luttes, quoi.
Et donc la fonction électorale, parce que là, voilà, on te reçoit dans le cadre de l'élection présidentielle, donc la fonction électorale, pour toi, finalement, elle est reléguée derrière tout ça, voire elle n'est pas du tout intéressante, ou est-ce qu'elle conserve quand même un intérêt? Parce que c'est vrai que Philippe Poutou déclare que il sait qu'il sera pas élu et que c'est pas ce qui l'intéresse. Localement, de manière générale, dans les élections, il y a eu très peu d'implantations. Alors lui a été élu avec deux autres personnes au conseil municipal à Bordeaux et au conseil métropolitain de Bordeaux Métropole, mais il y a quand même cette perception des élections finalement qui est un petit peu considérée comme plus une tribune. Donc finalement, est-ce que cette fonction électorale elle l'intéresse quand même selon toi? Personnellement,
ouais, c'est vrai que pour nous, en fait, la fonction électorale d'un parti, elle est secondaire. Moi, je pense qu'un parti, c'est vrai que c'est un moyen de s'engager en politique. Ça, c'est un peu évident. Mais à partir du moment où tu te rends compte qu'en fait, la politique, ça peut être autre chose que les élections, bah, tu commences à réfléchir différemment. Par exemple, en fait, nous, on fait le choix de se présenter à toutes les élections où c'est possible. D'ailleurs, il me semble que le NPRN s'était présenté aux élections municipales, alors pas là, mais celle d'avant. En fait, rien que pour, oui, c'est vrai, s'en servir d'une tribune, etc. Nous, on pense qu'il peut y avoir de la politique partout où il y a des gens qui veulent bagarrer, quoi. Et en fait, les gens qui veulent bagarrer, il peut y en avoir vraiment, pour le coup, partout, même en campagne, même en ville, etc., etc. Nous, on a fait le choix de... Voilà, on se présente à des élections, mais on pense pas que c'est central, quoi. Parce qu'en fait, on pense que voilà, les frontières et les instances de la République française, elles ont vocation à bouger.
Sur le clivage gauche-droite, donc on va dire que le NPA se situe à l'extrême gauche, à la gauche radicale. Donc tu as parlé du Parti communiste français qui se situe pas très loin. Il y a aussi quand même... Enfin, qui se situe, on va dire, sur cette aile-là. Voilà, dans l'élection présidentielle, là, en 2022, il y a également d'autres parties qui peuvent se situer plutôt de manière proche. Après, chacun situera précisément, mais on va dire il y a allez, la France Insoumise représentée par Jean-Luc Mélenchon et surtout, je dirais, Lutte Ouvrière représentée par Nathalie Arthaud. Pourquoi le NPA et pas un parti comme Lutte Ouvrière ou comme le PCF ou la France Insoumise?
Il faut savoir que le NPA a une histoire un peu particulière. C'est un parti qui est en fait très récent, qui est né en 2009 à l'appel d'une autre organisation, la Ligue communiste révolutionnaire. Et franchement, entre nous, j'aurais pas forcément rejoint la LCR à l'époque. Hein. Peut-être que j'aurais rejoint LO, enfin Lutte Ouvrière. Tout simplement parce qu'en fait, le projet du NPA, c'est d'avoir un parti qui rassemble tous les révolutionnaires. C'est-à-dire de dire, bon, bah voilà, on a des bases communes qui sont la lutte contre le capitalisme. Et là-dessus, on essaie de travailler sur un projet commun, etc. C'est vrai que. En fait, voilà, on parle souvent du trotskisme. Bon, je pense pas qu'on va s'étaler là-dessus, mais il y a des longs courants de gauche révolutionnaire, et c'est vrai que voilà, c'est des méthodes, c'est des manières de fonctionner qui sont pas les mêmes historiquement. Mais moi, ce qui m'avait parlé avec le NPA, c'est ce truc de dire bon, alors évidemment, on a nos idées. Enfin, hein, voilà, il y en a plein qui se revendiquent du communisme révolutionnaire encore et toujours au NPA. Enfin, j'en fais partie. Mais on est là quand même pour travailler sur un projet commun. Et on accepte le fait qu'il y ait différents courants, le fait de discuter, en fait, d'avoir un parti qui est un parti actif en interne. D'ailleurs, cet été, ça a beaucoup secoué le NPA, certains en ont entendu parler, mais c'est vrai que moi, c'est un truc qui m'a attiré, quoi. Se dire, bon, bah là, on rentre dans un parti, mais en fait, quand tu rentres au NPA, on essaie de te convaincre aussi de la nécessité d'autre chose, quoi. De dire, mais en fait, quand tu rentres au NPA, t'es convaincu de rentrer dans un autre parti qui n'existe pas encore. Et ça m'avait pas mal parlé, quoi.
Dans ton entourage en général, que ce soit ta famille ou tes amis, est-ce que les gens comprennent ton engagement ou est-ce qu'à l'inverse, il y a des gens qui ont pris leur distance par rapport à ça, ton engagement, ton militantisme?
Ah, c'est vrai que, bon. Alors, j'ai pas eu de gens qui ont pris leur distance avec moi, puisque bon, on sentait déjà que j'avais une petite fibre de rebelle, quoi, on va dire. Mais c'est vrai qu'en fait, ça peut sembler très bizarre, quoi. Pourquoi est-ce qu'un étudiant prendrait autant de temps de sa journée? Enfin, c'est vrai qu'un étudiant, ça fait soirée, ça fait machin. Et bien, des fois, en fait, il y a des soirées où je vais pas faire la fête, mais des soirées où, en fait, je vais écrire des tracts. Il y a des soirées où, en fait, je vais passer la journée à bouquiner. Enfin, il y a des jours où je vais passer la journée à bouquiner, d'autres à aller distribuer des tracts. Des fois, je me lève très tôt le matin pour aller distribuer des tracts, que ce soit. Des fois c'est aux portes d'entreprise, des fois c'est aux portes de lycée, des fois c'est à la fac. Et en fait, c'est vrai que bon, certains se disent qu'il y a un monde entre eux qui reçoivent le tract et qui savent pas trop quoi en penser, et moi qui, au contraire, bah, en fait, me suis levé spécifiquement pour ça. Mais une fois que t'es un peu gagné par ces idées-là, que tu dis que bah, y a tout un monde à changer, en fait, c'est dans nos mains, quoi. Moi, je mine pas vraiment pour un projet de société idéaliste, utopique, qui n'existe que dans ma tête, mais parce que on a su me montrer en fait en quoi aujourd'hui. Il y avait plein de terreaux pour une nouvelle société que je me dis, bon, bah voilà, j'ai bien envie d'y consacrer quelques heures de ma semaine, quoi. Donc, ouais, c'est des discussions à avoir, c'est des trucs qu'il faut expliquer. Et puis, enfin, moi, j'ai pas peur de choquer ou de surprendre.
Qu'est-ce qui, selon toi, n'a pas été suffisamment abordé dans cette campagne de l'élection présidentielle et mériterait de l'être plus?
En vrai, c'est quoi en dire, mais la question des salaires. Un truc tout bête, c'est qu'en fait, les gens, je crois que les gens ne se rendent pas compte à quel point la question des salaires, elle secoue en ce moment la France. Parce qu'on n'entend pas du tout parler dans l'actualité politique, mais en fait, depuis décembre, il y a eu un paquet de grèves par rapport aux salaires. Bon, je vais prendre un exemple. Il y a une grève à Biomérieux, à Lyon. C'est une boîte, il me semble, ils font des trucs pharmaceutiques. Un mois de grève complet pour les salaires. Bon, bah ça, c'est un truc, moi, je pense qu'il devrait beaucoup plus secouer l'actualité que n'importe quelle polémique débile.
Est-ce que la situation climatique internationale t'inquiète personnellement? Comment tu vois ton avenir personnellement?
Bah, alors, personnellement, c'est vrai que l'avenir climatique, il m'inquiète. C'est vrai qu'en plus, bon, je sais pas si t'as vu, je crois que c'était le 1er avril, il neigeait, quoi, à Rennes. Enfin, bon, il neigeait à Rennes, puis il neigeait à Paris aussi. Alors que la semaine d'avant, il faisait plein soleil. On sent qu'il y a des dérèglements. Et d'ailleurs, on a vu le Sahara, enfin, avec le sable qu'il y a eu, pareil, à Rennes. C'est vrai que ça, c'est inquiétant. Mais par contre, bon, au-delà de personnellement, moi je pense qu'on ne sera pas en France en tout cas les premiers inquiétés par le débordement des eaux, même si on l'a bien vu hein, sur les questions climatiques, il y a eu les algues vertes qui avaient pas mal secoué le monde marin. En vrai, la montée des eaux, elle va quand même pas mal inquiéter tu vois, les littoraux. Enfin, il y a eu Belle-Île aussi, où il y a eu des... J'avais un copain au lycée qui avait régulièrement des inondations pas loin de chez lui, quoi. Bon, ça, c'est des trucs inquiétants. Par contre, en vrai, les premiers à payer la crise climatique, ça sera quand même les pays du Sud. Et ça, il faut se regarder. Enfin, les pays du Sud, mais il y a aussi au Canada des populations autochtones qui se retrouvent à crever de faim, en fait, à cause des sécheresses. Enfin, c'est assez immonde, quoi. Donc voilà, évidemment, personnellement, en Bretagne, il y a des trucs qui m'inquiètent. Mais j'essaie d'avoir une conscience un peu plus largement. Où je me dis, bah, en fait, il y a plein de gens qui payent cette crise climatique-là. Alors qu'en vrai, on a des réponses. Et même si ce ne sera pas des réponses de... je ne pense pas qu'on pourra totalement... je pense qu'il y a pas mal de gens qui disent ça. On ne pourra pas totalement enrayer la crise climatique. Par contre, on peut déjà avoir des réponses d'urgence. Et ça, c'est... Alors, évidemment, ce n'est pas le plus gros espoir que je peux donner. Dire on pourra rattraper la casse. Mais on pourra, en tout cas, faire en sorte que... c'est pas une machine infernale où en fait on devra laisser les gens mourir. En fait, on a toutes les possibilités d'au moins sauver quelques personnes. On a assez de bouffe pour pouvoir nourrir ceux qui sont en train de mourir de faim à cause des famines. En fait, on a les outils pour utiliser ce qui nous reste encore de la terre pour sauver les gens qui restent. Et ça me donne quand même pas mal d'espoir sur des réponses à avoir face à la crise climatique, quoi.
Merci Pierre.
Bah, je t'en prie, Victor.